Chapitre 53. Le lendemain, avant le jour, César était maître d'Ariminium. Rimini. Cette nouvelle sembla s'envoler des bords du Rubicon avec les ailes d'un aigle et s'abattit non seulement sur Rome, mais encore sur toute l'Italie. César, passant le Rubicon et marchant sur Rome, c'était la guerre civile. Or, qu'était-ce que la guerre civile pour les Romains ? C'était la désolation dans toutes les familles, la mort entrant dans toutes les maisons, le sang coulant dans toutes les rues. C'était Marius, c'était Sylla. Qui pouvait deviner une chose indévinable ? Je crois que nous faisons le mot dont nous avons besoin, mais ma foi, tant pis. Qui pouvait deviner un vainqueur clément ? C'était inconnu, c'était inouï, cela ne s'était jamais vu. Les autres guerres avaient fait un effroyable prospectus à celle-ci. Aussi, cette fois, n'était-ce pas même comme dans les autres guerres où la crainte enfermait les gens chez eux. Non, la terreur poussait les citoyens hors de leurs maisons. Dans toute l'Italie, on voyait des hommes et des femmes courir éperdus. Les villes elles-mêmes semblaient s'être arrachées à leurs fondements pour prendre la fuite et se transporter d'un lieu à un autre. Tout afflua vers Rome. Rome se trouva comme inondée d'un déluge de peuples qui s'y réfugiaient des environs, et chacun entrait dans une agitation si violente que la tempête de la rue, que cette mer d'hommes, soulevée dans les carrefours et sur les places, allait toujours grossissant, toujours montant, à ce point qu'il n'y avait ni raison ni autorité qui pût la contenir. Et chaque homme et chaque femme, de plus en plus effarés, accouraient en criant « César arrive !» Et chaque bouche répétait « César ! César ! César !» Que venaient chercher à Rome tous ces individus, toutes ces villes, tous ces peuples ? L'appui de Pompée. Pompée était le seul qui put résister à César. Quel souvenir avait-on gardé de César ? Celui d'un tribun prodigue et factieux, proposant et exécutant les lois agraires. Qu'était Pompée ? Le représentant de l'ordre, de la propriété, des bonnes mœurs. Mais Pompée avait perdu la tête. Comme il fallait bien rejeter la faute sur quelqu'un, le Sénat la rejetait sur Pompée. « C'est lui, disait Caton, qui a grandi César contre lui-même et contre la République. »« Pourquoi, disait Cicéron, Pompée a-t-il refusé les offres très raisonnables que lui faisait César ?» Favorinus arrêta le proconsul sur le forum. « Où sont tes soldats, Pompée ? » lui demanda-t-il. « Je n'en ai pas, » répondit celui-ci, désespéré. « Frappe donc du pied, alors, puisqu'en frappant du pied la terre, tu devais en faire sortir des légions. » Et cependant, Pompée avait au moins 4 fois autant de soldats que César. Mais comment deviner que César n'avait que 5 000 hommes ? Les bruits les plus étranges sur le nombre des soldats de César, sur la rapidité de la course de César, se répandaient dans Rome. Puis Pompée sentait que le peuple tout entier allait à César. La terre, en quelque sorte, lui manquait sous les pieds. Le peuple, c'est le sol sur lequel tout gouvernement est bâti. Les révolutions sont les tremblements de terre de ce sol-là. Voyant que Pompée perdait la tête, le Sénat cria « Sauve qui peut !» Il rendit une loi qui déclarait traître quiconque ne fuirait pas avec lui. Caton jura de ne plus couper sa barbe et ses cheveux et de ne plus mettre de couronne sur sa tête, que César ne fût puni et la République hors de danger. Il fit une chose qui dut lui coûter bien davantage. Il reprit, pour avoir soin de ses jeunes enfants, sa femme Marcia, qui, dit Plutarque, était veuve et possédait des biens considérables, car Hortensius était mort et, en mourant, l'avait institué son héritière. Et c'est là, ajoute le biographe grec, c'est là ce que lui reproche César. Il l'accuse d'avoir aimé l'argent et trafiqué du mariage par intérêt. Car enfin, dit-il, si Caton avait besoin d'une femme, pourquoi la céder à un autre ? Et s'il n'en avait pas besoin, pourquoi la reprendre ? Ne l'avait-il donnée à Hortensius que comme un appât, en la lui prêtant jeune pour la retirer riche ? Ce diable de César, il n'y avait rien à gagner à être son ennemi. Était-on Pompée, il vous battait. Était-on Caton, il vous raillait. Les consuls, à leur tour, quittèrent Rome sans avoir fait, tant ils étaient pressés de fuir, les sacrifices qu'ils avaient l'habitude de faire aux dieux quand ils quittaient la ville. Les sénateurs, de leur côté, les suivirent ou les précédèrent, chacun prenant ce qui lui tombait de plus précieux sous la main. Cicéron fait comme les autres, il emmène son fils, laisse sa femme et sa fille. « Si l'on pille, leur crie-t-il en partant, mettez-vous sous la protection de Dolabella. » Puis il leur écrit « Formi, janvier. Réfléchissez bien, mes chères âmes, sur le parti que vous avez à prendre. Ne vous décidez pas à la légère. Ce n'est pas moins votre affaire que la mienne. Restez-vous à Rome, me rejoindrez-vous en quelque lieu sûr. Voici là-dessus mes idées. Ayant Dolabella pour vous, vous n'avez rien à craindre à Rome. Et si même on se portait à des excès, si l'on en venait à piller, votre présence sur les lieux pourrait nous être d'un grand secours. Mais attendez, j'y songe. Tous les gens de bien sont hors de Rome, ils ont enlevé leurs femmes avec eux. Tenez, il y a, dans le pays où je suis, tant de villes qui nous sont dévouées, tant de terres à nous, que vous pourriez me voir souvent et me quitter toujours à votre aise, sans cesser d'être sur un territoire qui fut neutre. En vérité, je ne saurais vous dire le meilleur de ces deux parties. Voyez ce que font les femmes du même rang que vous. Surtout, prenez garde d'attendre trop tard et de ne pouvoir plus sortir de Rome. Tout cela mérite que vous y réfléchissiez mûrement et avec nos amis. Dites à Philotime de mettre la maison en état de défense et d'y tenir suffisamment de monde. Puis tâchez d'avoir des messagers sûrs pour m'envoyer tous les jours de vos nouvelles. Enfin, si vous faites cas de ma santé, soignez la vôtre. Vous voyez Pompée fuyant, vous voyez les consuls fuyant, vous voyez le Sénat fuyant. Caton fuit, Cicéron fuit, tout le monde fuit. La panique est universelle. C'était, dit Plutarque, un spectacle terrible que de voir dans une si terrible tempête cette ville abandonnée et pareille à un vaisseau sans pilote, flotter à l'aventure sur cette mer d'épouvante et de terreur. Il n'y eut pas jusqu'à Labiénus, ce lieutenant de César, cet homme pour lequel César avait risqué sa vie, qui ne quitta l'armée de César et ne se mit à fuir avec les Romains, rejoignant Caton, rejoignant Cicéron, rejoignant Pompée. Qui eût vu les routes d'Italie à vol d'oiseau, eût cru que toute cette population effarée fuyait la peste. Un seul fait donnera une idée de l'épouvante qui régnait à Rome. Le consul Lentulus, étant venu pour tirer de l'argent du trésor secret, déposé dans le temple de Saturne, entendit crier, au moment où il ouvrait la porte, que l'on apercevait les coureurs de César. Il s'enfuit si rapidement qu'il oublia de fermer la porte qu'il venait d'ouvrir. Si bien que, lorsqu'on accusa César d'avoir forcé les portes du temple de Saturne pour y prendre 3 000 livres d'or qu'il y avait prises effectivement, « Par Jupiter, dit-il, je n'ai pas eu besoin de les forcer. Le consul Lentulus avait eu si grand peur de moi qu'il les avait laissées ouvertes. »